Je me suis rendu compte que si on voulait aller un peu en concours, qu'il fallait un chien un peu plus dynamique et souple. Et après, je suis partie dans le border collie.
Le border collie, on peut dire que c'est vraiment le chien de l'agility par excellence.
Alors, au niveau international, dans les grandes manifestations, oui, le 98%, c'est des border collie.
Quelles sont finalement les compétences nécessaires chez un chien pour... Ah ben voilà, je crois que c'est eux qui veulent répondre. Quelles sont les compétences qu'un chien doit avoir pour être un bon athlète d'agility?
Alors, il faut un chien léger, très souple, avec des réactions vives. Quand on fait de l'agilité, il faut une bonne harmonie chien-maître. Le maître doit aussi être un peu sportif quand même, et puis avoir une bonne coordination.
On a l'impression qu'on voit ces maîtres qui courent sur le parcours à une vitesse folle. Quelle est clairement la mission du maître en agility?
Alors, on doit ouvrir le chemin au chien par des ordres vocaux, en avant, à gauche, à droite, derrière, et puis le nom des obstacles aussi. Souvent, on arrive à être devant le chien si on court très vite, et si par hasard on devrait se retrouver derrière, c'est l'ordre vocal qui prend le relais. Ouais.
Comment est-ce qu'on grandit finalement dans ce genre de compétition d'agility? C'est le parcours qui devient de plus en plus complexe, c'est les chiens qui sont de plus en plus rapide. Comment ça s'est passé de votre côté, puisque vous avez vraiment gravi les échelons dans le milieu?
On commence de toute façon dans une catégorie débutante et puis on doit obtenir un certain nombre de résultats pour monter dans une deuxième catégorie. Là aussi, il faut de nouveau atteindre un certain nombre de résultats pour aller dans la catégorie élite, comme on appelle, c'est la plus haute catégorie, où là, on peut après avoir accès à des qualifications au championnat du monde, championnat d'Europe. Chaque catégorie, les difficultés viennent plus techniques, c'est des passages plus étroits ou plus d'autonomie, et c'est ça qui fait la différence.
Vous avez vous-même évolué et vous évoluez encore dans les élites, on peut dire, Anita, quand vous avez été confrontée à d'autres concurrents qui venaient d'autres pays pour la première fois. Comment est-ce que vous avez géré ça? Quelles ont été vos réactions? Ça doit être quand même aussi particulier la première fois qu'on se trouve dans une énorme compétition.
Alors, mon tout premier championnat du monde en 2009, c'est vrai que la nuit avant la compétition, j'ai très peu dormi. J'étais très stressée parce que il y a beaucoup de spectateurs, il y a 5000 spectateurs, il y avait 24 nations, on va défendre les couleurs de la Suisse et puis il n'y a que 6 personnes qui ont été qualifiées, donc c'est vrai que tout le monde aimerait être là. Le deuxième championnat du monde, franchement, c'était que du bonheur parce que, après, c'est clair, il y a eu un gros travail à faire sur le mental. Comme dans tout sport à haut niveau, je pense que si on n'a pas le mental, c'est difficile, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'arrive très bien à gérer.
Est-ce que parfois vos chiens n'ont pas envie?
Alors, non, rarement. Parce que même quand je commence à mettre mon training pour aller à l'entraînement, elle me tourne déjà autour, elle sait déjà très bien où on va aller.
Ce sont des athlètes finalement. Ça signifie que vous devez aussi les traiter comme tels au niveau de l'exercice physique, de l'alimentation et de tout ce qui va autour au niveau de la santé du chien.
C'est vrai que tous mes animaux de compétition, je les traite comme des athlètes. Au niveau alimentaire, je regarde ce qu'ils mangent. Ils ont des compléments alimentaires et ils sont régulièrement suivis par des ostéopathes. Ils reçoivent des massages, même plus que moi. Mais je dis toujours, si on traite bien l'animal, il nous le redonne en retour.